Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Ils sont officiellement 62 000 migrants qui se retrouvent bloqués en Grèce après la fermeture de la route des Balkans. On avait beaucoup parlé des conditions déplorables qui leur étaient réservées dans le camp d'Idoménie, dans le nord du pays. Il est aujourd'hui fermé, mais c'est un autre camp, celui d'Elliniko, qui suscite des critiques. Un camp qui devait être provisoire, mais où vivent de nombreux Afghans depuis plus d'un an. Installés dans l'ancien aéroport d'Athènes, ils n'ont pas accès à un niveau minimum de confort et de sécurité. Les esprits sont à vif et le ministre de l'immigration a même été victime d'un accrochage lors d'une visite. Écoutez le reportage sur place de Charlotte Stevenard.
Un bâtiment en verre se dresse au milieu d'une grande esplanade recouverte d'asphalte, une infrastructure héritée des Jeux Olympiques. C'est aujourd'hui l'un des trois camps pour réfugiés qui se trouve sur le terrain d'Elliniko, l'ancien aéroport d'Athènes. 500 personnes vivent à l'intérieur, mais aussi dehors, sous quatre énormes tentes blanches. À l'intérieur, d'autres tentes plus petites que des familles ont montées pour avoir un peu d'intimité et combattre le froid, comme cet Afghan de 42 ans. Il vit ici depuis presque un an avec ses trois fils. Cet ancien cadre dans une compagnie pétrolière résume la situation.
Le problème principal, c'est la météo. Il fait très froid. En ce moment, l'électricité est en panne et quand il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de chauffage. Ici, il y a beaucoup d'autres problèmes. Les enfants ne vont pas à l'école, il y a des problèmes avec la sécurité. Je ne me sens pas en sécurité ici la nuit dans le camp. La nuit, il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Ils sont dangereux. Je ne sais pas qui est qui. C'est dangereux.
Sa femme est en Allemagne avec leurs deux autres enfants, donc il n'a pas le choix. Il attend ici que leur dossier de réunification familiale soit accepté. Un peu plus loin, sur l'autre site, autrefois terminal des arrivées de l'aéroport, vivent 650 personnes. Selon la responsable, la moitié sont des enfants. À l'étage, des draps accrochés par des cordes au plafond forment un dédale de rue. Chaque famille s'est ainsi créée un peu d'intimité autour de sa tente. Elena, une jeune Afghane de 19 ans, vit dans l'une de ses cours intérieures avec sa mère et sa sœur. Elles sont en Grèce depuis un an et y ont demandé l'asile.
C'est terrible, c'est horrible. Nous n'avons pas d'eau chaude, au moins pour les bébés et les enfants. Il faudrait avoir de l'eau chaude. Nous n'avons pas d'école. Les enfants n'y vont que 2 heures par jour. Ce n'est pas assez pour apprendre le grec. À minuit, je ne peux pas aller aux toilettes toute seule. Ma mère dort, je dois la réveiller pour qu'elle vienne avec moi. Ce n'est pas un endroit sûr pour nous.
Comme beaucoup ici, elle aimerait bien que l'État trouve une autre solution, mais jusqu'ici, quand on leur a proposé de déménager, elles n'ont jamais voulu.
Ils nous ont dit « on va vous emmener en dehors d'Athènes ». Nous devons rester près de la ville, près du centre, car on a besoin d'hôpitaux, on a besoin d'écoles, nous avons besoin d'infrastructures. Nous ne sommes pas venus ici pour la nourriture ou pour l'eau, on a besoin d'un bon futur pour nos enfants, pour moi et pour les autres.
Cela fait aussi un an que Massoud Kahar, un Afghan âgé de 32 ans, vit au camp d'Elliniko. Au début, on lui avait dit que ce lieu d'accueil serait provisoire. Il a dormi 6 mois en dehors du bâtiment, alors que le camp était plein. Depuis, beaucoup de gens sont partis.
Ils sont allés dans d'autres pays, avec des passeurs, comme en Italie, en Macédoine, en Serbie. Ils sont partis car ils savent que nous n'avons pas de futur dans ce pays, dans ce camp. Les gens qui sont partis sont ceux qui avaient assez d'argent. Pourquoi on reste ici, nous? C'est parce qu'on n'a pas cet argent.
Alors que les demandes d'asile d'Afghans traînent et que les conditions d'accueil ne s'améliorent pas, réfugiés et migrants ont donc décidé de protester en lançant une grève de la faim. Lorsque le ministre de l'Immigration s'est rendu sur place, ils lui ont demandé d'écouter leurs doléances et ont d'abord refusé d'ouvrir la porte. S'en est suivie une bousculade avec la police, largement relayée par les médias. Une semaine plus tard, les choses ont commencé à bouger, explique Massoud Kahar, qui faisait partie des manifestants.
Aujourd'hui, ils ont amené des chauffe-eau. Ils vont régler ça. Ils ont amélioré la nourriture aussi. Et ils ont promis d'amener des machines à laver, mais pas rapidement, car cela demande beaucoup de travail et ils doivent discuter avec le DRC.
Le DRC, ou Danish Refugee Council, est la principale organisation non gouvernementale qui travaille sur le site. Elle s'occupe notamment des repas, de la logistique et fait du conseil juridique. Ses bureaux se trouvent dans le centre d'Athènes. Kyriakos Yaglis, le directeur du DRC pour la Grèce, reçoit dans son bureau moderne et aéré. 65 à 70% des opérations de cette ONG en Grèce sont financées par l'Union européenne. Pour elle, le problème, ce n'est pas le manque de moyens, mais l'absence de planification.
Quand on ne sait pas combien de temps un site comme Helliniko va rester ouvert, c'est très difficile pour une organisation non gouvernementale de prendre une décision sur le niveau d'investissement requis. On ne peut pas investir des montants importants pour Helliniko alors que l'on reçoit et que l'on doit gérer de l'argent public. Si on fait un investissement d'un certain montant et que dans un ou deux mois le site ferme, ça peut être critiqué facilement par tout le monde. Et ça serait justifié.
Du côté du gouvernement, on estime que la situation mouvante de la crise migratoire a rendu cette planification difficile cette année. Une source du ministère de l'Immigration indique qu'Helliniko devait être fermée depuis plusieurs mois, mais que des événements difficiles, comme la fermeture d'Idoménie au nord de la Grèce au printemps dernier, ont contribué à ce type de retard. Les autorités essayent de trouver au fur et à mesure des solutions, mais elles ont déjà prévenu. En ce qui concerne la sécurité, ils ne rajouteront pas plus de police sur le site, à moins que les réfugiés et migrants ne le demandent par écrit.
Yellow saffron, I'd like to know, when the winter comes, where do you go?
C'est de la consommation éthique au même titre que les produits de développement durable. La jeune start-up berlinoise Conflict Food espère bien donner du sens aux produits qu'elle vend. Cultiver la paix est son slogan et la compagnie vend des produits cultivés dans des pays en guerre. Une manière de soutenir la population locale et qui sait peut-être aussi éviter les conflits. C'est le reportage à Berlin de Julien Méchaussier.
Dans cette boîte, on trouve du safran conservé dans un petit flacon. Je vais l'ouvrir. Vous voyez, on distingue la couleur rouge des fils de safran avec cette odeur caractéristique de terre, de tabac, de vanille. Un arôme unique au monde.
Avec son ami Gernot Württemberg, Salem Elmogadedi est le fondateur de Conflict Food, une compagnie qui voudrait donner à la consommation un sens politique.
Nous voulons montrer aux gens toutes les choses qu'il y a à découvrir dans des pays comme l'Afghanistan. Il n'y a pas que des crises, du terrorisme et la guerre. Alors oui, c'est l'une des réalités, mais ce pays a bien d'autres facettes. Nous ne vendons pas juste un produit. Grâce à lui, nous proposons une rencontre des cultures, des personnes et des langues.
Le safran, un produit cultivé et récolté par un collectif de femmes dans la région d'Herat, troisième plus grande ville d'Afghanistan, située non loin des frontières de l'Iran et du Turkménistan. L'histoire de cette aventure commerciale est aussi celle d'une rencontre. Au début de l'hiver 2015, Salem fait découvrir à son collègue Gernot le pays de ses parents, l'Afghanistan enlisé dans des conflits sans fin. Son père chirurgien y gère sur place divers projets, dont un orphelinat, et durant le voyage, ils entendent parler d'un collectif de femmes qui a abandonné la culture de l'opium pour celle du safran.
Nous leur avons rendu visite lors d'une journée froide de novembre, très tôt le matin, car la récolte se déroule avant le lever du soleil. Nous étions dans les champs, aux côtés de ces femmes, pendant la récolte, et nous avons été très impressionnés par leur travail. Nous sommes revenus les voir à plusieurs reprises, puis nous avons décidé de leur acheter le safran et de raconter l'histoire de ces femmes, mais aussi celle d'un autre Afghanistan.
Mais il n'a pas été facile de gagner la confiance de ces femmes dans une région où il est bien rare de voir des étrangers. Après de longues discussions, Salem et Gernot se sont retroussés les manches et ont participé eux-mêmes à la récolte des fleurs de crocus, d'où est extrait le safran. Ils ont ramené de ce périple de magnifiques images de ces femmes au travail, mais également 2 kilos de safran, comme se rappelle Gernot Württemberger.
Lorsque nous avons décidé de leur acheter une grande partie de leur récolte, nous leur avons demandé leurs conditions, quel prix leur semblait juste, parce que jusqu'ici, elles ne vendaient le safran que sur un marché local de fruits et de légumes. Rien ne partait à l'export. Le safran était envoyé vers Kaboul pour un prix dérisoire et nous leur avons proposé une somme bien plus élevée que ce qu'elles touchaient alors.
können.
Vendu sur Internet, le safran est emballé dans une boîte particulièrement travaillée aux motifs orientaux, accompagné d'un journal édité par l'équipe de Conflict Food. Le travail du collectif y est détaillé, mais aussi des informations sur l'Afghanistan et des recettes au safran.
Dans ces pays, les gens vivent comme nous. Ils travaillent, font la fête, dansent, mangent, aiment. Et quand on a une image très lointaine de ces conflits, de ces guerres, on a tendance à oublier tout ça. C'est en quelque sorte notre mission, de montrer que l'Afghanistan n'est pas seulement synonyme de talibans et de terrorisme. Nous souhaitons ouvrir la porte d'un quotidien, d'une culture et d'un monde des arts inconnus.
Avec Conflict Food, Salem et Gernot se réclament d'un mouvement en plein essor, une consommation responsable de produits alimentaires, à l'image des produits bio, de saison ou régionaux, et ils ne comptent pas en rester au safran qu'ils vont chercher eux-mêmes chaque année sur place pour éviter les intermédiaires. Raisins et amandes d'Afghanistan doivent venir compléter leur gamme très prochainement, tout comme le friquet, du blé vert concassé et grillé, très apprécié en Palestine.
Produit rare s'il en est, le parfum du passé. C'est littéralement ce qu'a cherché à faire une créatrice turque qui, après des années de travail, dit avoir retrouvé l'odeur du célèbre palais de Topkapı à Istanbul qui abrite des reliques sacrées de l'islam. Une odeur qu'elle a mis en bouteille à Istanbul à Nandlauer.
À l'époque ottomane, où les parfums occupaient une place majeure dans la vie de la cour et ses rituels, une odeur s'imposait entre toutes. On l'appelait Asr-ı Saadet, littéralement l'âge de bonheur. Avant de décrire cette odeur, bref rappel historique. Au début du XVIe siècle, avec la conquête du monde arabe par le sultan Selim Ier, le califat passe des Abbassides aux Ottomans. Le manteau du prophète de l'islam, Mohammed, que conservait le dernier calife abbasside du Caire, revient donc à Selim Ier. Les diverses reliques de Mohammed et d'autres objets associés au prophète sont aussi emportés au palais de Topkapı à Istanbul, où ils se trouvent encore aujourd'hui. Parmi ces reliques dites sacrées, une dent du prophète, des poils de sa barbe, le sceau de Mohammed, une lettre autographe et ses armes. Or, cette pièce de Topkapı qui abrite les reliques avait une odeur caractéristique au XVIIe siècle, l'Asr-ı Saadet. Avec le temps, la chute de l'Empire, la fin de la cour ottomane et l'ouverture au public du palais, les odeurs de Topkapı, dont la fameuse Asr-ı Saadet, ont disparu de ses couloirs. Jusqu'à ce qu'une créatrice de parfums, Birter Türkan Ergül, ait l'idée de recréer l'odeur des reliques sacrées. La jeune femme est partie d'une recette retrouvée dans un ouvrage du XVIIe siècle. Du musc, de l'ambre, du cèdre, du santal, de l'huile et de l'eau de rose, c'est la formule de ce parfum aux proportions tenues secrètes, née de 3 ans de recherche. La parfumeuse raconte comment, à l'époque ottomane, la préparation de l'Asr-ı Saadet commençait au 15e jour du mois de Ramadan. Le résultat était soumis à l'approbation du sultan lors de la nuit dite du destin, à la fin de ce mois sacré. L'Asr-ı Saadet était ensuite utilisée pour nettoyer du sol au plafond la pièce des reliques. Faut-il dès lors s'étonner que l'actuel président Recep Tayyip Erdogan, qui revendique l'héritage des dirigeants de l'Empire et n'a cessé de chercher à accroître ses pouvoirs, ait été la première personne invitée à sentir la version recréée de l'Asr-ı Saadet ottoman.
Le 115, 3 chiffres que les Français connaissent bien, c'est celui du SAMU social, ce service d'urgence qui vient en aide aux sans-domicile fixe, aux exclus. L'auteur et dessinatrice de bande dessinée, Aude Masso, a tiré un livre de son expérience auprès de tous les travailleurs sociaux qui partent le soir en maraude et vont à la rencontre de ces hommes et ces femmes en marge de la société. Aude Masso, au micro de Catherine Roland.
C'est tout le souci du travail de réinsertion pour ces gens de la rue qui, en fait, décrochent du quotidien, de leur environnement et se retrouvent effectivement coupés de tout lien sociaux. C'est pour ça qu'ils s'enferment sur eux-mêmes et que la communication devient très difficile. Et puis après, forcément, quand on sombre dans l'exclusion, on arrête de prendre soin de soi, on se replie sur soi-même. Et du coup, ça n'aide pas à renouer le contact. Et puis, au fur et à mesure, c'est une descente aux enfers qui fait qu'on devient invisible aux yeux des autres, que les autres n'ont plus envie de rentrer en contact. Et c'est comme ça qu'on perd pied.
Oui, d'ailleurs, vos dessins sont assez forts, même plus forts que les mots quelquefois, parce que on voit littéralement les corps qui s'enfoncent dans le bitume ou qui disparaissent en partie.
Voilà, ça, c'est une sorte d'allégorie de cet effet de descente aux enfers qui fait que quand on est à la rue, on devient victime de son environnement, donc effectivement on se fond dans le décor.
Vous racontez l'histoire du 115, du combat du médecin Xavier Emmanueli qui s'est battu avec force pour créer cette structure, et vous accordez d'ailleurs dans la BD une grande place à votre rencontre.
C'est un personnage en soi, donc pour un dessinateur de BD c'est du pain béni, on a envie de le caricaturer, et lui il m'a fortement inspiré, donc j'ai adoré mettre en scène cette rencontre.
Xavier Emmanueli vous explique comment les exclus ont perdu les liens qui les arrimaient avant à la société. Il explique en fait pourquoi ils ont perdu tous leurs repères.
Oui, alors lui, il a beaucoup travaillé sur le sujet avant de créer le SAMU social. Il a été médecin de prison, il a travaillé dans un centre d'hébergement à Nanterre bien avant les structures d'aide sociale qui ont été mises en place.
Il a été à MSF aussi.
Il a été président de Médecins Sans Frontières, il a travaillé au SAMU. Donc il a une grosse expérience de terrain. Mais en fait, durant son expérience, il s'est rendu compte que le soin médical, ça suffit pas. Souvent, les patients ont besoin d'une écoute, et d'autant plus les patients qui sont en détresse. Donc c'est à partir de là qu'il s'est dit qu'il fallait allier les deux pour pouvoir soigner ces gens.
Puis il y a cette nouvelle catégorie aussi de sans-abri, ce sont les migrants.
Alors c'est vraiment un phénomène qui est très récent. Les migrants viennent grossir le nombre de gens de la rue. Mais alors les migrants, pour moi, évidemment, c'est surtout des gens qui ont un passif totalement différent, puisqu'ils ont été souvent éduqués, ils ont eu une vie dans leur pays avant, ils ont donc des diplômes et ils sont totalement capables de s'insérer dans la société. Et c'est pas forcément le cas d'un sans-abri, qui, pour toute autre raison psychologique ou d'addiction, se retrouve exclu.
Et le livre Chronique du 115, une histoire du SAMU social d'Aude Massot, est paru aux éditions Stenkiss. Les Britanniques sont de grands excentriques et ça se confirme dans les locaux de l'opérateur de transport public TfL. On a exposé des dizaines d'objets trouvés dans le bus ou le métro, du plus farfelu au jamais banal. Marie Billon a dressé la liste pour nous.
Des téléphones cellulaires, des appareils photos, des chapeaux, les articles exposés dans la vitrine du bureau des objets trouvés de TfL semblent d'une banalité à pleurer. Sauf que les portables ont à peine l'air portatif. Prenez par exemple cet énorme combiné datant de 1988. Quant au chapeau, ce n'est pas une casquette, non, mais un haut de forme de 1961. Et ce n'est pas tout, parmi les articles exposés, il y a aussi ce fer à repasser datant de 1934. Peut-être l'objet le plus farfelu donné à voir au public. Mais quand on passe de l'autre côté du miroir dans le bureau, en fait, nous entrons dans le pays des bizarreries. Rappelons que tous ces objets ont été trouvés et donc perdus dans les transports en commun. Rangés dans des sacs de couleurs, on peut trouver une jambe artificielle ou un implant mammaire, une urne funéraire ou carrément des crânes humains, mais aussi une perruque blanche de juge ou encore une tondeuse à gazon. Sans oublier les instruments de musique, de la flûte à la batterie, une variété assez grande pour monter un groupe selon TfL. Et puis il y a les objets moins glamour mais plus nombreux. Rien qu'en 2016, 38 000 livres de poche, 34 000 parapluies et plus de 100 000 téléphones portables. Impossible donc pour TfL de tout garder. Un cinquième des articles sont réclamés par leurs propriétaires, qui doivent alors payer des frais de restitution ou offrir une récompense au conducteur si l'objet a été oublié dans un taxi. Les autres sont vendus aux enchères ou donnés à des associations après 3 mois, mais certains restent là plus longtemps, comme cette urne qui aura mis 7 ans à être réclamée. En revanche, on l'aura deviné, l'enveloppe contenant 15 000 livres a été rendue à son propriétaire beaucoup plus rapidement.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grolo. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission et Accent d'Europe, et sur les réseaux sociaux. Restez à l'écoute de RFI. Dans quelques instants, un nouveau point sur l'actualité.
Autour de la question.